toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Hein, on a chanté en son honneur et nous continuons à le faire, toujours à travers sa parole. Car les cultes, oui, les cultes d'enfants, ok, les enfants. Alors, c'est la dernière prédication de 2018. Et le Seigneur m'a mis à cœur de repasser un peu tout ce que le Seigneur a préparé pour ses enfants et automatiquement notre cheminement. Parce que, et tout ça, où est-ce qu'on va puiser tout ça dans la parole? Il y a un verset dans le livre d'Amos. Voilà ce qu'il dit, le Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, Amos 3, verset 7, pour ceux qui prennent note. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret, son plan, son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé ce qu'il a en réserve pour chacun de nous, ce qu'il a en réserve pour tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Et nous allons voir justement à travers sa parole les mots qu'on utilise des fois et que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas que nous ne comprenons pas, mais nous n'arrivons pas à cerner vraiment ce que ça signifie. Parce que lorsqu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à en saisir le jus. C'est un peu comme un orange, vous voyez, un bel orange là, mais si vous ne le pressez pas, hein, vous n'aurez pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, on va voir du commencement jusqu'à la fin tous les mots qui sont utilisés dans la Bible et qui c'est le plan de Dieu, c'est le secret de Dieu qui nous a été révélé et dans lequel chacun de nous, il doit rentrer. Le premier mot, regardez, c'est là, dans le chapitre Hébreux, chapitre 13, verset 20. C'est tout le commencement. Hein. Si vous voulez, on repasse du commencement jusqu'à la fin, tous les conseils de Dieu. Chapitre 13, le verset 20. Voilà ce qu'il nous est dit. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Le mot ici que j'aimerais bien que chacun de nous prenne conscience de cela, c'est l'alliance éternelle. Il nous est dit que Dieu, il a établi une alliance éternelle. C'est quelque chose qu'il a établi, vous savez ce que ça veut dire éternel, hein? Ni commencement ni fin. Voilà. Il a établi cette alliance éternelle. Quelle est cette alliance éternelle? Que par le sang de Jésus-Christ, l'humanité, il serait sauvé. Avec qui Dieu il a établi l'alliance? Parce que pour faire une alliance, il faut qu'il y ait une autre personne devant. Il a établi l'alliance avec les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, il a préparé le plan, il a préparé le dessein, il a préparé les conseils, le salut. Le Fils, il a accompli ce salut. Et le Saint-Esprit, il l'a mis en œuvre. C'est une alliance qu'ils ont pris, ces trois personnes. Et cette alliance, il va s'accomplir. Tout au long de la parole de Dieu, il nous l'a dit. Hein? Et la première chose, par cette alliance, on le voit, la première chose, c'est les mots élection. Élection. Ne confondez pas avec l'élection du président de la République, hein? Ou autre élection. C'est l'élection de Dieu. Et pour cela, il y a un verset dans Éphésiens 1, verset 4. Voilà ce qu'il dit, ce verset-là. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. En Jésus, Dieu, il nous a élus avant la fondation du monde. Là, on commence notre intelligence, on commence à se dire comment est-ce possible? Avant le commencement de toutes choses, Dieu, il nous a élus. Avant le commencement de toutes choses, Dieu, il vous a élus si vous avez choisi Jésus-Christ. Vous n'étiez même pas venu au monde. Le monde, il n'avait même pas été créé. Que Dieu, il nous a élus. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, n'est-ce pas? Mais Dieu, il nous le dit dans sa parole et nous devons le croire. Cette élection, qui dit élection, il dit choix. Il dit choix. C'est pas Dieu qui l'a choisi, mais c'est nous qui avons choisi Dieu. Dieu, il s'est manifesté, il nous a parlé. Il a révélé son plan, son projet, son salut à ses prophètes, et les prophètes, ils nous les ont exposés, et c'est à nous d'avoir choisi Dieu. Et Dieu, lorsqu'on a fait ses choix, il nous a élus. L'élection de Dieu, il ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui élit les gens, mais c'est nous. Il voit dans son temps, dans sa toute omniscience, il voit les jours où vous avez dit oui à Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il nous a choisis. Ça, c'est l'élection. L'élection. Il y a aussi un autre mot qu'on entend très, très, très souvent, c'est la rédemption. La rédemption. Et ces mots-là, on le trouve dans Éphésiens, toujours chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est quoi avoir la rédemption par le sang de Jésus-Christ? C'est la liberté. Il nous a donné la liberté. Il nous a donné le salut. Il nous a rapprochés de Dieu. Vous savez que nous étions esclaves. Mais Jésus-Christ, en mourant sous la croix, il nous a libérés. Nous étions dans un marché d'esclaves. Vous avez vu dans des films, d'autres choses, les esclaves qui étaient vendus, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, il est venu et il nous a rachetés de l'esclavage et il nous a mis dans un endroit tout à fait spécial, que c'est dans son Église. Et une fois qu'il nous a rachetés, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous ne pouvons plus être esclaves. Pourquoi? Parce que Jésus, en nous accordant la rédemption, il l'a fait pour toujours. Ça, c'est l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la rédemption par son sang. Pas seulement la rédemption, la liberté, mais il nous a donné aussi la réconciliation. Réconciliation. On voit ça dans Colossiens, chapitre 1, verset 21, qui nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, nous étions des étrangers et des ennemis de Dieu, des étrangers. Nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Mais Dieu, Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec Dieu par son sacrifice. C'est Jésus qui a fait la paix avec Dieu à notre place. En acceptant Jésus, nous ne sommes plus, nous qui étions étrangers, nous qui étions ennemis, nous sommes rentrés dans la communion avec Dieu et grâce à cela, nous pouvons nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi il nous est dit, approchons-nous avec assurance. Pourquoi? Parce que nous avons été réconciliés. Avant, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu car nous étions des pécheurs. Mais Jésus-Christ, il a accompli cette réconciliation et maintenant nous pouvons nous approcher car nous approcher de Dieu, ça signifie mourir. Mais grâce à Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu, nous pouvons nous approcher. Un autre mot qu'on retrouve très souvent dans la Bible, c'est le mot expiation. C'est le mot aussi propitiation. Hein? Et on trouve cela dans 1 Jean 4, verset 10. Il nous est dit, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est la victime expiatoire. C'est-à-dire qu'il a fait l'expiation à notre place. Ça veut dire quoi ? On offrait un sacrifice pour rendre Dieu propice. C'est expiation ou propitiation. Et tout cela, Jésus-Christ, il l'a fait à notre place. Qui c'est qui mérite les châtiments et la mort? C'est les péchés. Nous étions des pécheurs et nous méritions les châtiments. Mais Jésus, il a pris notre place et il a fait l'expiation et il nous a rendus propices envers Dieu. Parce qu'avant, encore une fois, nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'expiation, c'était une victime innocente. Cette victime-là, elle était sacrifiée à la place. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu, il a pris un animal et il l'a sacrifié à leur place. Hein? C'est ça, l'expiation, la propitiation. Jésus-Christ, il nous a rendus propices à Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout fait. Nous n'avons rien fait. Voilà pourquoi nous crions, nous adorons, nous louons Jésus-Christ, parce qu'il a fait notre travail. Normalement, c'était à nous de mourir, mais Jésus, il a pris notre place. C'est ça que nous devons avoir constamment, et nous avons eu constamment pendant toute cette année 2018. Parce que lorsque nous nous réunissons, nous sommes réunis pour louer, pour adorer ce grand sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous avons été appelés. Un autre mot, c'est le mot appeler. 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 Et il nous est dit dans Romains 1, 6, il est dit, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Encore une fois, c'est Dieu qui commence. Et je peux le dire, moi, que depuis des années, j'ai voulu chercher Dieu. J'ai fait toutes les religions possibles, j'ai étudié toutes les religions possibles. Je me disais, je veux trouver Dieu, je vais chercher Dieu. Je ne me suis jamais trouvé à mon aise. Dans toutes ces religions dans lesquelles je suis passé, juste pour les étudier, je ne suis pas rentré dedans. Hein. Mais je voulais chercher Dieu. Mais la parole de Dieu, il me dit que ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu, mais c'est Dieu qui m'a cherché. Car, encore une fois, tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, ils ont été établis pour aller témoigner évangéliser et présenter la personne de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on a été appelé. Quelqu'un nous a montré la grâce, l'amour de Dieu. Et c'est à travers cette grâce et cet amour que Dieu il a lancé son appel. L'appel du Saint-Esprit, comme on a vu ce matin. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Et c'est à travers lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est ça l'appel. À quoi avons-nous été appelés? Nous avons été appelés à la vie éternelle. Parce qu'avant, nous n'avions pas cette vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur il nous a appelés à nous repentir, à nous convertir, à confesser nos péchés. Un autre mot qu'on trouve, c'est le mot régénération. Régénération. Hein? Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais dans la Bible, il a une signification tout spéciale. Et ce mot, on la trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Voilà ce qu'il dit. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante. » Régénération. Qu'est-ce que ça veut dire régénération? Ça veut dire naître de nouveau. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on passe de la mort à la vie, on est de nouveau. Mais ceux qui n'ont pas le cœur touché, ils ne comprennent pas. Un peu comme Nicodème, vous en souvenez, cet homme, Nicodème, un homme religieux qui ne comprenait pas. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème, c'était un homme spirituel, il appartenait au Sanhédrin. Et il a dit, comment peut-on naître de nouveau? Peut-on rentrer dans le sein de notre mère et renaître? Et Jésus, il a dit, comment toi, qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas cela? Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui continuent à ne pas comprendre. Et pourtant, le Seigneur, il explique bien, c'est naître de nouveau. Il y en a beaucoup qui font cette nouvelle naissance à travers les baptêmes. Lorsqu'on va amener des enfants, les faire baptiser dans les églises, cet enfant, il est né de nouveau. Il rentre dans l'église. C'est exactement le contraire de ce que le Seigneur Jésus il dit. Le Seigneur Jésus, il dit qu'il va changer les cœurs. Il va nous donner un autre esprit. Et ces choses-là, ils n'arrivent que lorsqu'on accepte, lorsqu'on a foi en ce que Jésus a fait. C'est ça la régénération, naître de nouveau. On l'a dit dans la prédication la semaine dernière, hein? Celui qui naît une fois, il meurt deux fois. C'est-à-dire, il naît une fois de papa et maman, il naît une fois. Il meurt deux fois, c'est-à-dire la mort physique et la mort spirituelle. Celui qui naît deux fois, il meurt une fois ou pas du tout. Alors, celui qui est né deux fois, premièrement, papa et maman, et deuxièmement, la nouvelle naissance par Jésus-Christ. Il meurt. Pourquoi? Parce que tous doivent mourir. Ou sinon, ils ne meurent pas du tout. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, ceux qui sont vivants, ils ne meurent pas. Mais ils vont être transformés automatiquement. Voilà ce que le Seigneur il entend pour la nouvelle naissance. C'est encore une fois, nous ne faisons rien, mais c'est Dieu qui fait C'est lui qui fait tout. Ce n'est pas une vie réformée, mais c'est une vie changée. C'est une nouvelle naissance. Paul nous le dit, les choses anciennes sont passées. Ce que nous étions auparavant, c'est terminé. Ce qui compte, c'est ce que Dieu il accomplit dans le cœur de chacun de nous à travers son esprit. Voilà la régénération. Il y a un autre mot qu'il dit, c'est la justification. Justification. Et ça, on le trouve dans Romains, chapitre 4, verset 25. Elle dit, « Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. » La justification. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Hein, en mercredi, pour ceux qui étaient là, hein, on a vu que le pardon, hein, on a parlé un peu du pardon, hein, le pardon, il nous donne la justification, et le pardon, il nous donne la communion. Hein? Comment il nous donne le pardon, la justification? C'est lorsqu'on reconnaît notre état de péché, lorsqu'on reconnaît Jésus-Christ, alors là, il nous justifie. C'est encore Dieu qui nous justifie. Nous n'avons rien fait pour recevoir cette justification, mais c'est Dieu qui nous justifie. Nous sommes des chrétiens. Nous avons encore en nous cette nature pécheresse. Nous sommes justifiés, mais il y a aussi le pardon qui nous donne la communion. C'est-à-dire, en tant que chrétien, si nous avons péché, nous pouvons demander pardon à Dieu. Mais pas pour être justifiés une autre fois. Pourquoi? Parce que la justification, c'est une fois pour toutes. Pas deux fois, mais une fois. Le pardon, lorsqu'on a péché en tant que chrétien, on demande pardon pour rentrer dans la communion. J'ai utilisé cet exemple dans nos familles, hein, mercredi, hein, ceux qui étaient là, je me répète, hein, mais pour ceux qui, la plupart, ils n'étaient pas là, j'ai parlé un peu du couple, mari et femme. Ils sont passés par le mariage, hein. J'ai donné mon exemple. Ça fait 45 ans que je suis marié. On est toujours marié, on est toujours ensemble. Et le mariage, je voulais, c'est la justification. Voilà, on est marié, on est justifié. Mais pendant ces 45 ans, qui n'a pas eu de difficultés dans le mariage, n'est-ce pas, hein? Et ainsi, c'est dans notre propre vie chrétienne. Nous sommes tombés dans les péchés, mais... Nous étions toujours mariés. Hein? Alors, lorsqu'il y a des petits problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on demande pardon. Pour qu'il y ait le pardon qui donne la communion, pour qu'on rentre encore en communion. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Nous sommes justifiés pour toujours, mais nous tombons dans les péchés. Et pour rentrer dans la communion avec Dieu, nous devons confesser nos péchés. Et Dieu nous assure que nous sommes pardonnés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. La justification, c'est Jésus qui nous la donne. Jésus, il nous révèle de sa justice. Ce n'est pas que nous sommes justes, parce que justes, nous ne le sommes pas. Mais Dieu, il nous déclare juste. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Un autre mot qu'on trouve, c'est les sceaux du Saint-Esprit. Les sceaux. Hein? Aujourd'hui, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Hein? Mais dans le Moyen-Âge, il était utilisé très souvent. Les grands seigneurs, les rois, ils écrivaient une lettre, ils mettaient les sceaux sur chaque lettre. Parce que c'était quelque chose d'acquis. Et nous le trouvons dans Éphésiens encore. Il dit, « Et Jésus, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » du Saint-Esprit. Ça veut dire sceller, que, ça veut dire que nous appartenons à celui qui nous a scellés. C'est-à-dire que nous appartenons à Dieu. Rien et personne, il peut nous séparer des dieux. Parce qu'il y a le sceau du Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est ça que, ça c'est encore une assurance que chacun de nous, il doit avoir. Mon salut, il est éternel. Mon salut, il est assuré, parce que j'ai le sceau du Saint-Esprit à moi. Et c'est ça qui doit nous rendre cette joie, que des fois nous perdons dans cette vie chrétienne. Et avoir une vie victorieuse, malgré qu'il y ait des défaites dans notre propre vie. Même s'il y a des défaites, nous sommes victorieux. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est là. Nous avons cette assurance que rien et personne, il peut nous éloigner de Jésus-Christ. Il y a aussi cet autre mot qu'on utilise beaucoup, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Quand c'est qu'on est baptisé du Saint-Esprit ? Voilà, on trouve ça dans Corinthiens 12. Il nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons été tous baptisés par un seul esprit et c'est le Saint-Esprit. Lorsque on accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il nous fait rentrer dans le corps de Christ, dans l'Église. Aujourd'hui, il y a des gens qui, ils attendent une nouvelle manifestation de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, nous avons été baptisés du Saint-Esprit lorsqu'on a dit oui à Jésus, lorsqu'on a dit oui à Dieu. Nous ne devons pas attendre qu'une manifestation toute spéciale. Je vous invite à venir pour les 12 et les 13. Il y a un frère qui va nous parler justement de ces choses-là. Le Saint-Esprit et le don, surtout sur le don de langue et sur le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas de sa propre tête qu'il va nous parler, mais il va nous parler à travers la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voulez connaître toutes ces choses-là, il faut écouter la parole. Et pas se laisser entraîner par des soi-disant gens qui sont connaissances, qu'ils connaissent plus que la parole de Dieu. Nous sommes une église biblique. Et nous devons nous laisser diriger que par la Bible. Ayons le courage de cela. Sinon, enlevez les mots bibliques. Mais si nous disons que nous sommes bibliques, c'est qu'on a une seule et unique autorité. Ce que Dieu dit, je l'écoute, je le suis et je le mets en pratique. Ce que peuvent dire les hommes, ils peuvent être intelligents, ils peuvent être de grandes connaissances. S'ils disent les choses contraires à ce que Dieu dit, il faut le laisser de côté. Et des fois, il y a des choses que Dieu dit, les gens ils se disent, oh, mais c'est pas possible. Dieu dit, et nous devons le croire. Même si nous, dans notre propre esprit, on se dit, mais c'est pas possible que Dieu fasse ça. Paul, il est clair. Qui es-tu, homme, pour juger Dieu ? Si nous disons que Dieu est la vérité, nous devons le croire. Même s'il dit des choses que, à notre propre esprit, nous n'arrivons pas à cerner. Aujourd'hui, les gens, ils veulent tout comprendre. C'est un peu comme Thomas. Thomas, on a vu le Seigneur Jésus, il est ressuscité. Ah non ! Si je ne mets pas les doigts dans ses mains, je n'y crois pas. Voilà, Jésus, il est venu et il lui a dit, Thomas, approche-toi. Il a dit, mets ton doigt ici. S'il l'a mis, on ne le sait pas. Hein. Mais on sait une seule chose, c'est qu'il s'est mis à genoux et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça. Et Jésus, il a dit, il n'a pas fait des reproches. Il lui a dit seulement de croire. De croire les choses. Mais aujourd'hui, les gens ils disent, « Ah, si je ne vois pas, je ne crois pas. » Si tu existes, manifeste-toi, descends. Si Dieu, il se manifestait, personne serait vivant. Personne. Il faut croire. Et ça, ça s'appelle la foi, en ce que Dieu dit. C'est par la foi. Hein? Et il y a un autre esprit, un autre mot, c'est la sainteté. La sainteté. En Pierre 5, 10, il dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous fortifiera. » c'est le cheminement dans notre propre vie chrétienne. Une vie sainte, une vie affermie, une vie guidée par le Seigneur. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur, il nous demande de vivre. Soyez saints, car moi je suis saint. Bien sûr, on ne peut pas être saint comme Dieu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit qu'il nous a donné, nous pouvons vivre cette vie sainte. Et tout ça, encore une fois, parce qu'il vient de Dieu. C'est Dieu qui accomplit toutes choses. Il y a un autre mot que les gens ils ne comprennent pas ou ils n'arrivent pas à cerner, c'est le mot adoption. 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 Et on trouve cela dans Éphésiens. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ses enfants de... Pourquoi des enfants d'adoption? Car auparavant, avec notre péché, nous n'étions pas enfants de Dieu. Et alors à Dieu, il a dit, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu es mon enfant. Par adoption, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais il nous adopte. Comme aujourd'hui, lorsqu'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, il décide d'adopter un autre enfant. Cet enfant ne leur appartient pas. Mais un enfant d'adoption, selon la loi, il prend toutes les caractéristiques d'un enfant. Ce n'est plus l'enfant de tel ou de tel, mais il est l'enfant de ce couple-là. Et c'est ça que Dieu il nous dit. Nous ne lui appartenions pas. Nous étions des étrangers, nous étions des ennemis, mais en acceptant Jésus-Christ, il nous adopte. Il nous adopte. Et la Bible est claire, hein, dans l'évangile de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi il y a des gens qui changent la parole de Dieu? Des gens, ils disent, faites baptiser l'enfant et il devient enfant de Dieu. C'est contre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut dire, Seigneur, me voici pécheur. Je me tourne vers toi, je confesse que je suis pécheur, je confesse mes péchés, je me répands et je me tourne vers toi afin que tu puisses me faire entrer dans ta famille. Il faut faire l'acte des foi, de se mettre entièrement entre les mains de Dieu. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu, mais adopté. Nous sommes adoptés. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, parce que nous sommes des pécheurs. Et la Bible est claire, elle dit, vous avez pour père les diables. Mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Voilà la merveille de la parole de Dieu. Et toutes ces choses nous sont révélées dans la parole. Hein? Toutes ces choses. Il nous est dit aussi le mot héritage. C'est quelque chose qu'on connaît dans ce monde, n'est-ce pas? Et que tous les enfants, ils attendent. Papa et maman, il s'en va, il va me laisser la maison, un terrain, ou de l'argent. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que nous avons un héritage. Hein? Regardez dans Romains chapitre 8, 17. Il dit, si nous sommes enfants, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu parce que tout appartient à Dieu. Co-héritiers de Christ, pourquoi? Parce que tout l'héritage de Dieu, Dieu l'a posé dans les mains de Jésus-Christ. Donc, nous allons hériter avec Jésus-Christ. Nous avons un héritage. Et Jésus, il a dit, l'héritage qui ne peut ne se flétrir. Il n'y aura pas de voleurs qui peuvent nous les prendre. C'est un héritage qu'il est réservé là-haut pour tous ceux qui vivent une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais dites, mais moi je n'ai rien ici, là. J'arrive même pas à la fin du mois. Vous avez un héritage dans les cieux. On a un héritage dans les cieux. Et cet héritage, personne ne va nous le prendre. Vous n'avez jamais pensé que, ici la Bible nous le dit, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. D'ailleurs la Bible, de quoi avons-nous besoin? Votre Père sait, et il va pourvoir à toute chose. C'est ça que le Seigneur il veut nous montrer dans sa parole. Un autre mot qu'il est utilisé, c'est aussi le mot la prédestination. La prédestination. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot prédestination? Romains 8, 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui sont élus, connus d'avance, ici-bas sur cette terre, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre tous les fils. Prédestiné à être semblable à l'image de son fils. C'est-à-dire que nous serons comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Je vous le dis toujours, je me regarde dans la glace et je me dis que tu es beau, Aldo. Parce que je vois Jésus-Christ. Oh, je suis seulement à l'image de Jésus-Christ. Hein. Attention, hein. Je suis à l'image de Jésus. Et j'ai été prédestiné. C'est-à-dire que Dieu, il me réserve cela. Maintenant, on ne voit pas cela. Mais je suis prédestiné à être comme Jésus-Christ. Là, on a un corps qui s'est dépourri, n'est-ce pas? On voit tout notre visage. On essaie d'arranger un peu notre visage, ou avec de la crème, ou avec des opérations, hein, pour cacher un peu. Mais Dieu nous a prédestinés à être comme Jésus-Christ. Et c'est ça que la Bible nous dit. Nous avons un avenir. Et cet avenir, c'est un avenir merveilleux. Merveilleux. Le dernier mot, c'est la glorification. La glorification. Et nous le trouvons dans Romains, vers 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire que nous aurons la gloire lorsque nous serons auprès de Dieu. Glorification. Comme Jésus. Prédestiné à être comme Jésus. Est-ce que nous avons la gloire aujourd'hui? Non, pas du tout. Hein. Mais le Seigneur, il nous a prédestinés à cela. Avoir la gloire de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai voulu repasser Hein? C'est un peu comme les cantiques. Les cantiques qu'on prend souvent, ils disent « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. » Et tous ces mots-là, c'est pour chacun de nous, pour se dire « Redis-toi toute ton histoire. » C'est Dieu qui a préparé ce salut, qui t'a élu. C'est Dieu qui t'a délivré. C'est Dieu qui t'a réconcilié, hein? C'est Dieu qui a fait la propitiation, c'est Dieu qui est l'expiation de mes péchés, c'est Dieu qui t'a appelé à ce salut qu'il a préparé. Préparé d'avance, avant le commencement de toutes choses, il l'a préparé. Il t'a appelé et il nous a régénérés pour cela. Pourquoi ? Parce que dans l'état où nous étions, nous ne pouvions pas prendre part à ce projet de Dieu. Et il nous a justifiés, il nous a justifiés, la justification de Jésus-Christ. Il a mis sur nous le sceau du Saint-Esprit, une assurance que rien et personne il peut nous enlever. D'ailleurs, nous avons les arts de l'Esprit, il nous a dit. C'est là que nous avons été baptisés du Saint-Esprit lorsque on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est descendu sur nous et il a habité parmi nous. Et nous l'avons dans notre cœur. Et il y a aussi la sainteté. Nous sommes saints. Car Paul, lorsqu'il écrit aux églises, hein, aux gens, aux chrétiens qui sont dans l'église, il dit aux saints qui sont à Philippe, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Sardes. Voilà, les saints, ce n'est pas les morts, les saints, c'est les vivants. Aujourd'hui, on fait exactement le contraire. On déclare saints les morts, mais les saints, c'est les vivants. Mais saints, ils sont ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur. Et c'est Dieu qui déclare qu'ils sont saints, ce n'est pas un homme. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, la sainteté, l'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu. Nous avons aussi un héritage dans les cieux, pas ici-bas. Hein. Ça ne sert à rien ici-bas d'hériter, car tout ce que nous avons, il va disparaître. Quand nous allons mourir, nous allons rien prendre. Heureusement pour nos enfants, n'est-ce pas? Parce que sinon, si nous le pouvions, nous ramènerions tout avec nous. Mais nous ne pouvons rien amener. Les choses d'ici-bas, ils restent ici. Mais nous avons un héritage là-haut. Hein? Et Dieu, il nous a encore prédestinés. Prédestinés à quoi? À rassembler à l'image de Jésus-Christ. Et pas seulement ça, mais il nous a aussi glorifiés. Cette gloire, nous l'aurons lorsque le Seigneur Jésus il va revenir. Notre âme, il est déjà dans le ciel, auprès du Seigneur, si nous sommes morts. Mais lorsque le Seigneur Jésus il va revenir, il va nous donner un corps glorifié, comme celui du Seigneur. Et nous serons éternellement avec lui. Repassons toutes ces paroles, tous ces mots, hein, dans cette nouvelle année qui va arriver. Et chaque fois que nous lisons une de ces paroles-là, disons simplement à Dieu, merci Seigneur de toute cette grâce. Malgré mes manquements, tu es toujours là, tu m'as toujours fait grâce et je te remercie. Bénis cette nouvelle année et que ton nom soit glorifié en retour.